Slav Richter.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
C'est un enfant qui est le héros du roman Un roi sans lendemain de Christophe Donner, un enfant incommode qu'on a laissé mourir en prison. Les révolutionnaires ont guillotiné son père, Louis XVI, et sa mère, Marie-Antoinette, et il a été pendant une courte période roi de France, roi sans couronne et sans lendemain. Dans son roman, Christophe Donner évoque la vie et le martyre de cet enfant, et aussi la vie de l'homme qui devait devenir son bourreau, la vie de Jacques-René Hébert, fondateur du journal satirique Le Père Duchesne. Parallèlement, le romancier raconte une tentative avortée de tourner au début du XXIe siècle un film sur Louis XVII. C'est de tout cela qu'il a été question dans la seconde partie de l'entretien accordé par Christophe Donner à Radio Prague. C'est quand même un roman, donc une œuvre de fiction. En lisant ce livre, on se demande, bien sûr, dans quelle mesure les faits que vous décrivez correspondent à la réalité, aux faits historiques.
Il n'y a pas grand-chose de non historique. Il y a quelques fabrications de scènes que je n'ai pas vécues, mais qu'aucun historien n'a vécues. Mais par exemple, si on prend la chose la plus troublante pour les gens, qui est évidemment la rencontre du roi et de Robespierre, donc le chef de la révolution, c'est avéré par les historiens, par les espions du premier ministre anglais de l'époque, Pitt, avec des rapports, qui sont d'époque et qui ont effectivement déterminé que Robespierre avait kidnappé l'enfant, l'avait sorti du temple. Et là, il y a un mystère total, on ne sait pas ce qu'il en a fait, mais en tout cas, il l'a ramené au bout de 3 jours. Et moi, je recrée cette scène qui a eu lieu, mais dont on n'a aucun témoignage, évidemment. Donc, et curieusement, aucun romancier ni historien ne se sont attachés à essayer de raconter, d'inventer, d'imaginer ce qui a pu se passer entre ces deux êtres si dissemblables et qui avaient un intérêt commun, qui était de restaurer la royauté et de remettre l'enfant sur le trône. Robespierre étant aujourd'hui, on sait ce qu'on a toujours su, mais qu'on a caché longtemps en France en tout cas, Robespierre était tout à fait royaliste en fait, et il était d'autant plus royaliste qu'il voulait devenir régent. On a une idée de Robespierre, d'un révolutionnaire républicain, c'est tout sauf un républicain et tout sauf un être dévoué à la cause du peuple, c'est un être dévoué à sa propre cause. Il voulait régenter et il a pensé à un certain moment que le petit enfant pouvait lui servir d'instrument pour ça. Il se trouve, je pense, qu'il a découvert un enfant dans un tel état physique de délabrement qu'il y a renoncé. C'est ma théorie.
Est-ce que le sort tragique de cet enfant, de l'enfant roi, jette une nouvelle lumière sur les coulisses de la Révolution française? Quelles leçons peut-on en tirer?
Oui, je pense que ce qui jette une lumière sur tout ce qui est significatif, c'est le silence autour de cet enfant. C'est-à-dire que l'existence de cet enfant, elle est connue, son drame, il est connu, même si au cours du 19e siècle, au début du 19e, beaucoup ont prétendu être l'enfant du temple, etc. Mais toute cette stratégie, en fait, de faux Louis XVII a entretenu le silence, en fait, sur ce meurtre. Et le silence, c'est ça qui est significatif, c'est comment la République française, la République a fait silence sur cette affaire, parce qu'elle mettait en cause, et pas seulement la République justement, aussi les royalistes, parce que finalement ça a arrangé Louis XVIII de voir cet enfant partir. Le fait même est une honte pour la famille royale et pour toute la monarchie française. C'est une honte d'avoir laissé cet enfant mourir, de l'avoir abandonné, etc. Pourtant, le peuple a entretenu une mémoire sur cet enfant, a cultivé une légende, même sourde, même sous-jacente.
L'homme que vous considérez comme le principal responsable du martyre de Gênes, Louis XVII, est un journaliste, Hébert. Pourquoi parle-t-on de lui si peu, par exemple, dans les livres d'histoire par rapport aux autres personnalités de la Révolution, Danton, Marat, Robespierre?
Parce qu'il n'a pas eu non plus le pouvoir. À un certain moment, il faut être déterminant. Alors, il a été déterminant de manière sous-jacente. Mais c'est vrai qu'il a jamais eu la fonction qui lui aurait permis d'apparaître à la lumière comme Danton ou comme Robespierre. Cela dit, il a eu un rôle très important et aussi important à mes yeux que Robespierre et un rôle littéraire aussi important, un rôle journalistique. Il a participé de la fondation du journalisme moderne. Il a introduit ce qui est aujourd'hui le pamphlet journalistique, l'idée du pamphlet journalistique. C'est vraiment lui qui l'a créé, quoi, avec cet humour, avec ce langage populaire, avec cette introduction de la fiction dans le journalisme, qui me passionne beaucoup. J'adore cette façon d'introduire de la fiction dans les récits journalistiques. Et c'est lui qui a inventé ça avec son journal, le père Duchesne. Il a eu les deux postes, c'est-à-dire qu'en tant que directeur de son journal, qui avait une diffusion énorme, s'appelait Père Duchesne à l'époque, qui était vraiment le journal du peuple, la voix du peuple, avec tout ce qu'elle de plus vulgaire, de plus incendiaire. Il était aussi procureur. Et ça, c'est une chose qui s'est jamais vue, je crois, dans toute l'histoire de toutes les révolutions. Un type qui accuse les gens dans son journal le matin et qui, l'après-midi, va les juger dans un tribunal populaire. Ça, même les Chinois n'ont pas osé le faire.
Vous brossez un portrait très antipathique, très même repoussant de Hébert. Pourtant, on a décelé dans votre livre aussi quelques brins de sympathie pour lui. Peut-on trouver quelques circonstances atténuantes pour ses activités?
Oui, c'est le talent. Le problème, c'est le talent, c'est que c'est une crapule qui a du génie, quoi. Et ça pose un problème à tous les créateurs, de toute façon. Des gens comme Céline, des gens comme des écrivains fascistes, ils sont écrivains, ils ont du talent, ils ont du génie, et ce sont des fascistes, et ce sont des salopards. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de les lire pour autant, alors qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses à leur art, ou est-ce qu'on essaie de comprendre comment justement un homme qui a des opinions peut avoir la grâce divine malgré tout? Donc c'est quelqu'un qui va choper dans le peuple une vérité littéraire et qui la ramène sur de l'imprimé, et là il a sa place dans la littérature.
Votre roman est un livre qui marie deux récits en contrepoint. C'est l'histoire de Louis XVII, mais c'est aussi le récit de la création d'un film. Un film qui finalement ne se réalise pas. N'avez-vous pas quand même envie de réaliser un film sur Louis XVII?
Ah oui, évidemment, j'ai toujours l'envie de faire un film. J'avais aussi l'envie de tourner ce film aujourd'hui, c'est-à-dire avec la présence des gens d'aujourd'hui, parce que les lieux sont les mêmes. La place de la Concorde, qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde, c'est là où on a guillotiné Marie-Antoinette. De rejouer la scène de guillotine de Louis XVI et Marie-Antoinette sur cette place de la Concorde, ça me paraissait une idée intéressante. Avec les flics d'aujourd'hui, avec les barrières métalliques qu'on met aujourd'hui autour des tournages de films, et de voir les réactions des gens massés devant les stars, ils vont la guillotiner, faire une espèce de happening comme ça. Voilà, moi c'est le genre de film que je voudrais faire, mais vous pensez bien, je vois bien à votre sourire que c'est une utopie pour un producteur. Voilà, c'est des choses infaisables, c'est des films rêvés, quoi.
C'était la deuxième partie de notre entretien avec l'écrivain français Christophe Donner. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Petr Pokorný, prise de son.